Salut à tous, quelques news du bord.
C'est Benjamin.
Hello.
Bonjour à tous, en ce lundi ensoleillé, nous venons d'empanner
avec l'association Water Family sur la préservation de l'eau.
Plein de courage. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.
Bonjour à tous, c'est Benjamin Dutreux.
Et maintenant, rendez-vous au départ.
Les kids, je suis avec Flaggy, ici présent.
5, 4, 3, 2, 1.
Top départ, ça y est, c'est parti.
À bientôt.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Voix Rousse. Pour vous raconter la première course de la saison, la Guyader Bermude Mill Race au départ de Brest. Mais avant toute chose, il est essentiel de revenir un petit peu en arrière pour vous raconter ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ce mois-ci était synonyme de découverte. L'IMOCA, en chantier depuis 2 mois, a été mis à l'eau le 20 avril sous ses nouvelles couleurs, bio-environnement Water Family.
Oui, c'est sûr que la sortie du chantier, c'est un moment assez symbolique, pas que pour moi, mais aussi pour toute l'équipe. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup manqué de ne pas être avec eux, de bricoler un peu. Là, le fait d'arriver pour les aider sur les manutentions, pour mettre en place la key, les files, etc., voir comment les systèmes fonctionnent. Déjà, ça me permettait d'être proche de l'équipe technique. Là, ça m'a permis aussi de commencer à apprendre le bateau, comment tout fonctionne à bord. Et c'était cool de le voir comme ça dehors avec ses feuilles, la key, quoi. Voilà, et donc on a pu partir en fin de journée avec le coucher de soleil, sortir du port de Port Bourgeonnais. On commence à avoir hâte de voir naviguer le bateau, c'est normal. On voit 2 mois de chantier qui se concrétisent, quoi. On voit les premières navigations, c'est clair que ce bel oiseau volé, ça va être... on a hâte, quoi.
Dans la foulée, Binge et le team ont pu commencer les premières naves et même atteindre des premières pointes de vitesse. La première nave s'est vraiment bien passée. C'était une sorte de petite mise en jambe. Donc forcément, ils n'ont pas exploité le potentiel du bateau au maximum. Ils ont essayé de mettre les voiles en place, prendre un ri, 2 ris, 3 ris. C'était vraiment une chouette séance de découverte, comme Binge l'a dit. Le mercredi suivant, les conditions étaient vraiment idéales pour faire 1 ou 2 petits runs et un petit peu tester le bateau sur des pointes de vitesse. Il y avait Sébastien Simon à bord qui connaît très bien ses bateaux à foil. Et d'un coup, l'IMOCA a décollé sous les yeux ébahis du team qui était vraiment hyper content de vivre ça. Mais pour participer à la Guyader Bermude Mill Race, il ne suffit pas d'aller le plus vite possible. Il fallait aussi effectuer une qualif de 500 000. Il restait très peu de temps à Benjamin pour la faire, avant le départ de la course. Il est donc parti tester et commencer à s'approprier le bateau dans la foulée. Il a bien pris le temps de le découvrir lors de sa première nuit en mer. Il y avait un gros travail d'optimisation à faire, mais l'idée c'est que... sur la première course, tout devait fonctionner. Dans ces quelques jours d'apprentissage et de découverte du bateau, il en est ressorti que Benjamin se sentait vraiment bien à bord, qu'il avait un très bon feeling avec son bateau, ce qui est très important pour lui.
Oui, c'est sûr qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour naviguer à bord du bateau, on va dire que tout se met plutôt bien, il y a un gros travail qui a été fait par l'équipe technique, et ce qui fait que dès la mise à l'eau, on a pu quand même utiliser le bateau, pas à 100% de son potentiel bien sûr, mais on a déjà pu l'utiliser sans avoir trop de problèmes et donc sans passer trop de temps déjà en version chantier. Donc voilà, c'est vrai que ça fait que 4 jours de navigation au final à bord du bateau. C'est pas beaucoup, mais je me sens déjà plutôt bien à bord et voilà, le bateau est agréable, il a l'air d'aller vite. On a encore beaucoup à apprendre, les moindres petits réglages à bord des bateaux à foil sont, comme on a pu voir sur le run, sont assez importants. Donc voilà, en tout cas le bateau est bien intéressant.
Et il est prêt.
Et il est prêt, ouais, bien sûr, ouais. On est prêt. Après voilà, on n'est pas prêt optimum, on est prêt pour pouvoir naviguer, quoi. Après, on va avoir pas mal de boulot pour aller plutôt dans l'optimisation un peu plus tard.
Ok.
Lundi 2 mai, c'était l'heure du départ pour Brest. Une grosse semaine attendait le team GUE Environnement Water Family. Au programme baptême du bateau, rencontre avec les collaborateurs Guyot, action avec la Water Family, run de vitesse en rade de Brest, tout ça en préparant les dernières petites choses sur le bateau.
C'était chouette de pouvoir déjà d'être accueilli comme ça à Brest. Comme je disais, lors du baptême, on s'est vraiment senti accueilli comme à la maison et c'était vraiment agréable. De pouvoir aussi visiter l'usine, tout simplement, rencontrer les salariés. Voilà, en fait, on sent que c'est un projet qui porte toute l'entreprise et ça, c'est assez génial. Et voilà, de pouvoir montrer notre bateau et nos couleurs à nos concurrents, c'est aussi quelque chose qui est important. C'était assez génial de voir tous les bateaux hier en rade de Brest et de pouvoir renouer avec la course, quoi. C'est un bon moment et pour nous, c'est encore mieux de le faire ici à Brest chez notre partenaire, quoi.
Quelques heures avant le départ, nous avons demandé à Benjamin un petit point météo et nous expliquer un petit peu le parcours pour comprendre dans quoi s'embarquait-il.
Alors météo, c'est pas évident, donc du coup le parcours pour le reprendre déjà, on part à l'extérieur de la rade de Brest, ensuite on va en Irlande, on va entourer ensuite le Waypoint Gallimard qui est dans le nord-ouest du Cap Finistère et un retour à Brest. Les conditions de départ s'annoncent vraiment parfaites, ça va être vraiment chouette je pense, on va avoir des super conditions de départ avec un petit peu de vent, donc ça va être vraiment sympa. Après voilà, on va vite arriver dans des zones de molles, donc un peu foireuses, sûrement dues à des fins de vent thermique, etc. Donc voilà, ça risque d'être des premières options stratégiques, donc ça va être assez marrant. Et ensuite, on enroule le premier waypoint qui s'appelle le waypoint Cap Finistère, trophée Cap Finistère exactement, qui est dans l'ouest de Brest, au large. Je pense que ce waypoint nous permet à la direction de course de nous écarter de la zone de trafic des cargos. Et ensuite, on fait du nord direction le Fastnet, et là, le vent va se mettre à forcir, et on va atteindre un vent qui va avoisiner les 30 nœuds et surtout des rafales à plus de 35 nœuds. Donc voilà, ça va être la première baston avec le bateau, quoi, je pense, parce que voilà, le bateau, on l'a jamais utilisé dans ces conditions, on n'a jamais été dans plus de 20 nœuds avec le bateau. Donc voilà, là va falloir être
vigilant,
mais aussi être dans l'entretien du matériel, etc. C'est un bateau que je connais pas encore, donc je suis content d'aller le découvrir dans ces conditions-là, même si j'aurais préféré le faire hors course. Mais voilà, ça va être voilà, il va falloir être à l'écoute du bateau surtout et essayer de connaître ses points critiques et puis faire attention, quoi. Voilà, ça reste en dehors de la découverte du bateau, ça reste des conditions assez difficiles, donc voilà, il faut que moi aussi en tant que marin, je me remette dans le bain, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de solitaire et donc voilà, c'est des conditions qui sont quand même pas évidentes en solitaire sur un IMOCA, donc voilà.
Pas trop de pression.
Pas trop de pression, non, un peu, enfin il va falloir faire attention, quoi, c'est tout. Je pense que le plus gros point de pression, c'est plutôt d'arriver dans les mers d'Irlande avec beaucoup de vent, ça c'est quand même voilà, falloir faire gaffe, prendre large, quoi.
Okay.
En fait, ce qui est génial, c'est que là, vu les conditions météo qui sont annoncées, il y a un peu toutes les allures du pré, du portant, de la brise, de la molle. Et donc, en fait, les conditions météo sont idéales pour apprendre le bateau. Et donc, voilà, c'est pas comme si c'était deux bords de vent de travers dans 15 nœuds, quoi. Il y a vraiment un grand panel de... Je pense que la direction de course a cherché à avoir ça, d'ailleurs. Donc ça, c'est assez génial. Donc ça va faire partie d'un des objectifs, c'est de pouvoir justement apprendre le bateau dans différentes conditions. Et l'objectif principal, je pense que là, c'est de sortir un gros débriefing de ce qui va se passer pendant les 5 jours là. De sortir avec une vraie liste de ce qu'on va pouvoir améliorer pour la suite.
On l'a bien compris, c'est donc avec cette envie très forte d'apprendre et de bien faire que Benjamin va parcourir cette course. D'abord avec le passage du mythique phare du Fastnet en Irlande, puis au Waypoint Gallimard qui est positionné à peu près à 300 milles dans le nord-ouest du Cap Finistère. Évidemment, les conditions sur cette course seront très variées, ce qui va permettre à Benjamin d'utiliser en fait son bateau sous toutes les conditions possibles et toutes les combinaisons possibles.
Et puis on peut peut-être parler de... Alors on va revoir les expérimentés tout à l'heure. On est là avec Benjamin Dutreux. C'est intéressant de parler de Benjamin, une des sensations hein, du dernier Vendée Globe avec un bateau à dérive et puis maintenant avec ce bateau, l'ex Eleven Hour.
Oui, c'est vrai que Benjamin, c'était une révélation sur le dernier Vendée Globe. Après, pas une révélation pour nous jeunes régatiers parce qu'on le connaissait d'avant. Il était très bon, très talentueux. et il méritait amplement de se révéler sur le dernier Vendée Globe. Là aujourd'hui, il a une belle machine, l'ancien Eleven Hour. C'est un bateau qui lui correspond. Hein. Benjamin, c'est un très fin régatier, donc très content de le voir avec cette machine-là. Et il y a de grandes chances qu'on le voit batailler sur la tête du plan d'eau. Là, on voit que ça se rapproche fortement du bateau comité.
Ouais.
Ça joue une poignée de secondes maintenant. 10 secondes.
Ouais, et puis on voit ils sont très proches les uns des autres, hein, comme sur une brigade de délégués. Ils y vont à donf.
Et c'est parti, très officiellement, c'est parti pour cette Guyader Bermude Race, Guyader Bermude Mille Race, pardon, 1200 000, donc au programme, direction le Fastnet. Et une seule question pour tous ces hommes, qui succédera à Sébastien Simon, vainqueur en 2019 de la dernière édition. C'est parti, et puis il n'y avait pas beaucoup de vent tout à l'heure, il n'y en a toujours pas beaucoup maintenant.
Non,
Dimanche 8 mai, jour 1. Repoussé de quelques minutes à 14h40, le départ de la Guyader Bermude Mille Race est lancé au large de Brest. Sous un grand soleil breton, mais un vent instable, entre 6 et 10 nœuds, Binge s'élance aux côtés d'Apivia et de Banque Populaire. Il prend alors un très bon départ. Au début de la course et jusque début de soirée, Benjamin reste dans le top 10. Mais vers 20h, quand on regarde la carte, il chute à la 18e place. Mais alors, qu'est-ce qui vient de se passer?
Hello, hello, on a eu droit à un superbe départ de Brest. C'était assez incroyable, soleil, un peu de vent. Bref, c'était parfait. On a pris un bon départ à bord de Guy Environnement Water Family. Mais quelques heures après le départ, j'ai eu la mûre de voile qui a lâché. Et donc voilà, la voile s'est enroulée, emmêlée autour de la galette. Enfin bref, c'était un vrai merdier. J'ai dû affaler la voile sur le pont et la réessayer ensuite. Débloquer les tours qu'il y avait en haut dans la drisse. Et enfin bref, ça y est, c'est reparti. Voilà, c'était la petite galère. La petite galère d'entrée de jeu, mais bon, au moins c'est réglé. Et là, on repart direction l'ouest, direction Waypoint, le Waypoint département Finistère.
Mais vous connaissez Benjamin, il ne va pas s'arrêter là. Dans la nuit, il rattrape rapidement son retard pour remonter et se placer dans les 15 premiers. Il essaye de rattacher le groupe de tête, dont l'écart commence à se creuser.
Là, c'est ça y est, on a rechopé du vent et ça déboule. Ça déboule, là, ça vole, ça fait plaise. Fond la caisse, là, je suis encore sous voile de tête. Mais je commence à avoir des risées à 17, 18 nœuds, donc je vais pas tarder à passer sous une voile un peu petite, une voile de caplage. Et sinon, cette nuit, c'était assez compliqué dans la molle, là. On a pas mal à... Enfin, j'ai pas mal galéré. J'ai eu du mal à trouver les petits airs et voilà, je m'en suis pas très bien sorti. Mais bon, ça fait vraiment plaisir, là, de retrouver la course... Voilà, de retrouver la régate, franchement, c'est trop cool, je m'éclate bien. Voilà, ça fait plaisir d'être au contact des autres bateaux. Et je me régale là, depuis que ça a accéléré, je me régale à bord du bateau, là, c'est bien sympa.
Lundi 9 mai, jour 2. La remontée vers le Fastnet rime avec découverte du bateau. Il faut trouver les réglages, lesquels sont les plus pertinents, à quel moment, trouver tous les petits boutons de cette grosse machine.
Allez, ça y est, la machine elle est en route, on a rechopé du vent là. Maintenant, direction le Fastnet. Passage de front à venir, donc là ça on voit bien, on est entre 20 et 25 nœuds, mais je pense qu'on va pas tarder, je vais pas tarder à passer sur une voile de caplage. Vous voyez, les tranquilles, voilà, c'est la découverte. En tout cas, ça aboie bien, ça fait plaisir de voler là.
Vers 21h30, il passe le waypoint du Fastnet, accompagné des autres skippers, malgré quelques soucis de cartographie.
Hello, hier c'était solide les conditions, hier après, on est arrivé sur le Fastnet en fin de journée, au moment du passage de front, donc ça c'était plutôt bien goupillé. Et voilà, ça enchaînait pas mal de manœuvres et tout, donc j'étais bien cramé.
Et j'ai des petits soucis de capteur de mât, donc voilà, j'avais pas vraiment d'infos devant, donc j'ai fait en mode compas. Mais voilà, globalement, ça a été en tout cas pour enrouler les fastnets. Ce qui était cool, c'est qu'on s'est tous regroupés tout un petit paquet là, donc il y a pas mal de bateaux autour, donc ça c'est assez sympa à virer autour du fastnet là. Et donc du coup, ensuite, on a fait direction le sud pour le waypoint Gallimard, et là on est au près. On a fait toute la nuit auprès dans une vingtaine de nœuds. Et puis voilà, j'étais du temps à trouver les réglages, mais je suis super content, le bateau réagit super bien et il va super bien quand on est bien réglé quoi. Donc voilà, et là le vent va mollir un peu dans la journée. Et cette nuit j'ai eu la chance de pouvoir prendre un peu de temps pour me reposer, surtout parce que j'avais pas eu l'occasion encore de me reposer là. C'était bien intense le début de course.
Quand la nuit tombe, Benjamin ne chôme pas. Après avoir évité le front, il enchaîne les manœuvres et revient dans le match. Bref, il s'accroche. Et au petit matin, les efforts payent. Il se place en 6e position, le mardi 10 mai à 6h du matin, le jour 3. Il était bien fatigué après avoir enchaîné toutes ses manœuvres. Mais c'est normal, il apprend à connaître son bateau, ses réglages. Donc forcément, tout prend un peu plus de temps. Dans la nuit de mardi à mercredi, après le passage d'un gros front, il continue sa route vers le waypoint Gallimard, aux côtés d'Isabelle Josque, MACSF, et Nicolas Dunevel, Banque Populaire, qui, vous allez voir, vont devenir ses compagnons de course.
Ouais, salut. Ça y est, on fait de l'ouest. Après le virant de bord, je viens de mettre le J3 et prendre deux riz dans la grand voile. Pour l'instant, il n'y a que 20 nœuds, mais j'essaye de faire safe et d'anticiper. J'ai bien rangé toute ma chambre, tout est nickel, on est prêt à faire face à ce nouveau front qui se pointe là. Sur les fichiers, ça va être un peu plus virulent que prévu. Donc voilà, on va falloir être sur le qui-vive cette nuit.
Le jour 4, à 15h40, il enroule le waypoint Gallimard et se dirige vers Brest. Et Benjamin récupère enfin ses données de veau. Cependant, les galères s'enchaînent. Benjamin se rend compte qu'il a perdu quelque chose d'assez important.
Hello, pour résumer le début de course, déjà tout va bien à bord de GU Environnement Water Family. Je viens de récupérer les infos de vent après une journée de bricole. Et du coup, ça me rend super heureux parce que je vais pouvoir aller me reposer un peu plus. Là, je commence à être bien cramé. Et sinon, c'était chouette. On a fait un gros bord pleine balle direction le fastnet. Le bateau se comportait super bien et c'était super chouette après avoir passé toute la nuit dans la molle. Passé le fastnet deux jours, donc c'est toujours sympa. Et après, on est descendu auprès, direction le waypoint Gallimard. Et on s'est fait cueillir à froid dans un front. Il y a une petite dépression qui s'est formée, une petite dépression annexe qui s'est formée. Donc on se fait cueillir dans un front qui était assez violent, mine de rien. C'est là que j'ai perdu les aériens, donc je serais pas capable de dire quelle force de vent il y avait, mais c'était assez chaud. J'essayais de mettre en mode ralentir le bateau au mieux pour mieux passer les vagues sans trop être dur pour le bateau, mais c'était pas facile. C'était pas facile de trouver les bons angles. Mais bon, voilà, c'est passé. Et puis du coup, j'ai pu enrouler le waypoint Gallimard ce midi. Voilà, après avoir bricolé pas mal toute la journée et un peu cette nuit. Donc voilà, mais ça y est, de retour dans la course maintenant. Je me reconcentre pour aller direction Brest parce que ça va vraiment pas être évident. On a une dorsale qui nous bloque la route. Et voilà, je pense que les premiers vont passer, en tout cas Charlie. Mais après, je sais pas du tout comment ça va se passer pour nous. Ça va être compliqué, je pense qu'on risque de mettre pas mal de temps à remonter.
On fait face à une petite surprise. Benjamin active son mode fantôme. Sa balise de tracking ne fonctionne plus. Sa position sur la cartographie de course n'est donc pas mise à jour. Il va communiquer régulièrement sa position à la direction de course. Quel coup dur pour la team accro à la carto. Pas facile non plus de suivre son classement et de savoir s'il est devant, derrière, Isabelle ou Nicolas. Jeudi 12 mai, jour 5. Le petit groupe continue sa route en passant devant le Cap Finistère.
Hello, pas de doute, ici on est au Cap Finistère. On est en train de slalomer entre les cargos. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, on voit pas grand-chose. J'ai j'essaye de ne pas me faire tromper non plus. Je vous aime bien, mais je ne prends pas trop de risques. Là on arrive au Cap Finistère, je suis à 3000 de Isa. Donc c'est cool, super moment, faire des speed tests pour découvrir le bateau, ça c'est vraiment intéressant. Je découvre plein de réglages, des bons et des moins bons, mais bon c'est vraiment top. Et on aurait pu arriver comme ça sur Brest, mais non, c'est l'Espagne. Donc c'est vrai qu'il y a une dorsale qui nous barre la route, donc il va falloir la contourner par l'Est. Donc c'est pour ça là, on fait direction l'Espagne, ensuite on vira un peu plus au nord et puis on essaiera de la contourner pour retourner vers Brest. Et sinon ici tout va bien à bord, heureusement que j'avais emmené de quoi grignoter pendant assez longtemps et puis de quoi boire aussi. Et donc voilà.
La course n'est pas terminée et Benjamin ne lâche rien. Dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que Charlie Dalin, à bord d'Apivia, franchit la ligne d'arrivée à 1h27, toujours en mode fantôme à cause de sa balise défectueuse, Benjamin évolue en 6e position. Il tente tant bien que mal de se démarquer du paquet en poussant davantage vers l'est. Vendredi 13, jour 6. Et ce n'est pas forcément un jour de malchance. Il tente encore une fois de tirer son épingle du jeu, maintenant qu'il arrive un peu plus à intégrer les réglages de ce bateau. Il faut davantage se concentrer sur la route, se dit-il.
Hello, hello, petite voice note, jour 5. Non, 6, jour 6. Tout va bien à bord de Guy Environnement Water Family. On remonte vers Brest, enfin on essaye de remonter vers Brest. En faisant des décalages dans l'est pour pouvoir s'écarter de la dorsale. C'est là qu'est le petit jeu avec les petits camarades au contact avec Banque Populaire, avec MACSF, avec Nico et Isa. Et donc voilà, moi j'essaye de trouver ma route. Parce que jusque-là, j'étais plus en mode essayer de comprendre à faire fonctionner le bateau. Et là maintenant, on est dans du petit temps. Je commence à trouver les réglages, donc je vais essayer de me concentrer un peu plus sur la route. Et puis essayer de tirer l'épingle du jeu au bon moment. Ça va pas être évident, rien n'est écrit jusqu'à Brest, donc ça va être marrant. Et voilà, et sinon la nuit dernière, la remontée vers l'Espagne, j'ai pas mal cherché les réglages et tout, je suis vraiment en pleine découverte, c'est hyper intéressant, mais des fois c'est un peu frustrant, parce qu'on a l'impression de trouver des bons trucs, et en fait le bateau il décolle pas comme je voudrais. Il accélère pas, donc voilà, c'est vraiment de la découverte, essayer de prendre en main le bateau et découvrir les manettes de gaz, quoi. Mais sinon, c'est chouette d'avoir des bateaux autour pour faire ça. Comme ça, on voit ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Rendez-vous demain à Brest si tout va bien. Sinon les conditions sont plutôt clémentes maintenant. À bientôt.
Hello, on est une petite heure avant l'arrivée de la Bermude Mill Race. Je lâche rien, il y a Isa qui est 2000 devant et on sait jamais ce qui peut arriver sur une course. Alors voilà, là ça déboule en plus. Enfin il y a un peu de vent et on peut débrider. On est entre 15 et 20 nœuds. Trop content, le bateau va trop bien, il se comporte trop bien, c'est vraiment super agréable. Ça aurait été une course vraiment super riche en apprentissage. Et voilà. Hâte d'arriver maintenant et de partager ça. La job list s'est rallongée de beaucoup, mais c'est ça qui est cool, on va progresser. Allez, ciao!
Après 6 jours et 32 minutes de course, Benjamin franchit la ligne d'arrivée à la 6e place. Le match était très serré avec Isabelle et Nicolas. En 40 minutes, les trois sont arrivés. Et c'est seulement à 1h30 du podium que s'achève la première course de Benjamin en solitaire de la saison. Voici les premières réactions de Benjamin à l'arrivée sur le ponton.
Du coup, c'est une 6e place et surtout pour une première course de la saison, première course sur ce bateau. T'as vite trouvé Lionel, manifestement ?
Il y a encore plein de choses à apprendre, ça qui est génial, mais j'ai pu voir que le bateau va super vite, donc déjà c'est bon signe pour la suite. Et surtout, je me suis régalé, quoi. C'était le début de la saison en solitaire. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de solitaire. En fait, j'ai fait que le Vendée Globe en solitaire en course. Donc là, je suis content aussi de faire cette course en solitaire. Et je me suis régalé.
Un petit clin d'œil à toute l'équipe qui a préparé le bateau de dernière minute, parce que c'est vrai qu'on a mis à l'eau il y a deux semaines, en fait on oublie assez vite, mais on a mis à l'eau il y a deux semaines et il y a pas mal de petites bricoles, c'est normal, c'est un bateau à voile prototype, donc voilà, c'est une Formule 1 des mers, mais par contre tout a été en ordre de marche pour pouvoir finir la course. Et donc c'est le principal, donc là on est super fiers d'arriver ici à Brest, chez notre partenaire Gu Environnement qui nous accueille ici, et donc voilà, juste content d'être là, quoi. Et je me suis régalé.
Bah alors, parce qu'il est super match. Alors toi, t'as joué un peu en mode furtif. On savait pas trop exactement où t'étais. Et en l'occurrence, t'étais au.
Je pensais que ça allait marcher jusqu'au dernier moment, tu vois. Et je me suis dit, non, j'ai essayé de pipoter la direction de course. Ouais, non, j'ai pas de position. En fait, j'avais éteint la balise. Non, en fait, ouais, c'est vrai que j'avais pas de position. C'était. C'est vrai que ça devait être chiant pour suivre le bateau à terre. Mais j'étais en mode furtif. Oui, non, parce qu'en fait, je les avais à la IA tout le temps. Donc, ils me voyaient tout le temps. Surtout avec Isa, on s'est bien marré. Parce que des fois, on se quittait. Hop, on se retrouvait, etc. Et puis à la fin, j'ai cru jusqu'au dernier moment parce que moi j'arrivais vite avec du vent sur la route et en fait il y a une grosse molle. Il y a tout le temps eu du rebondissement. On a pu, bien matcher aussi avec Nico qui après lui l'a remonté sans les foils. C'était plutôt plus sympa qu'avec les foils. Donc il nous a lâché, mais il nous a fait un petit coucou au passage, c'était sympa. Et voilà, sinon le parcours était ouf, hein, hyper complet. On a eu. Un passage de Fastnet rapide, on a eu une espèce de dépression secondaire qui s'est créée, qui était, je crois que c'est le truc le plus fort que j'ai pris en IMOCA pour l'instant. Donc tu vois, même plus fort que ce qu'on a eu dans le sud. Il y avait moins de mer, mais ouais, je sais pas combien il y a eu, parce que j'avais plus d'aérien, j'avais plus rien, c'était bordel à bord. Mais j'ai pris une pointe de vitesse à 36 nœuds, alors sans rien faire, et je serrais les fesses et tout, mais c'était bien sport. Et après, de la molle et du prêt pour remonter, donc du coup j'ai un carnet rempli grand comme ça avec plein de trucs à voir et à apprendre encore. Donc non, c'est cool, je suis hyper content. Voilà.
Plein d'enseignements, quoi.
Ouais, grave, trop bien. C'était trop bien, puis c'était trop bien de régater, quoi. Voilà.
Parfait, merci beaucoup et bravo surtout.
Ouais, bah merci.
Parti pour découvrir son bateau, il s'est rapidement laissé prendre au jeu de la course. Notamment au moment du passage du Fastnet où ses petits démons ont repris le dessus et il s'est dit... Là, il faut que j'attaque. C'était un très bon test pour la Vendée Arctique, dit-il, et ça permet de me mettre en confiance avec le bateau. Je sais qu'il tient la route, et ça, c'est important. Ce qui est bien avec le bateau, c'est qu'on s'ennuie jamais. Il y a toujours des rebondissements. J'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de La Voix Rousse. Au revoir.